Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, le vélo boulot dodo ou comment le gouvernement veut multiplier par 3 nos trajets à bicyclette. Les députés examinent à partir d'aujourd'hui la loi sur les mobilités. Précision dans un instant. Briser le silence autour des violences commises par les surveillants de prison sur les détenus. Un tabou que tente de lever l'Observatoire national des prisons. Rapport accablant à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, un nouveau séisme chez les Républicains avec la démission hier soir de Laurent Wauquiez, les 30 ans de la répression de la place Tiananmen. Et on parlera aussi dans ce journal de la finance, solidaire qui continue de progresser dans l'économie française et du livre de la jungle version Bob Wilson.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50 aujourd'hui, Arnaud Robinet, le maire Les Républicains de la ville de Reims.
France Inter.
Comment organiser, Sébastien, les transports de demain? La LOM arrive aujourd'hui devant l'Assemblée.
La LOM, la loi d'orientation sur les mobilités, un texte tentaculaire qui sera débattu pendant 2 semaines par les députés, 200 pages, plus de 3000 amendements. L'enjeu est de taille, le premier texte sur les transports en France depuis 35 ans. L'idée générale, c'est de faciliter et de verdir les déplacements du quotidien, autrement dit, en finir avec la voiture dite thermique, essence et diesel, d'ici 20 ans, sans braquer pour autant ceux qui dépendent de leur voiture. Parmi les pistes, davantage de financement pour les petites lignes de train, développer le covoiturage et puis favoriser les transports non polluants comme le vélo. Aujourd'hui, seuls 3% de nos trajets du quotidien se font à bicyclette. Un chiffre que le gouvernement veut donc tripler d'ici les JO de 2024. Sandy Dauphin.
Le projet de loi veut généraliser l'apprentissage du vélo dès l'école. Il prévoit aussi plus de pistes cyclables et des stationnements sécurisés obligatoires devant les gares et les lieux de travail. Et pour encourager les déplacements maison-boulot à vélo, les employeurs pourront verser un forfait mobilité jusqu'à 400 € par an, mais pour l'instant pas d'obligation. Autre mesure, pour lutter contre les vols, à partir de 2021, les vélos seront marqués et recensés dans un fichier national. À la même date, certains cars et trains interurbains devront réserver des places aux cyclistes. Mesure réclamée par la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, son président Olivier Schneider.
Pour des distances plus longues, évidemment, le vélo seul ne permet pas d'accomplir tout le trajet. Aujourd'hui, c'est un grand point noir. Il y a de nombreux trains où on ne peut pas transporter un seul vélo, sauf à utiliser un vélo pliant. Et donc là, la loi, même si elle renvoie un décret, les volumes concernés, elle garantit que ce qu'on appelle cette intermodalité soit possible et donc ça va permettre à des gens de pouvoir se déplacer autrement qu'en voiture.
Autre mesure prévue, les publicités pour les voitures comporteront un message en faveur du vélo, de la marche ou des mobilités partagées, un peu comme le manger 5 fruits et légumes par jour.
Sandy Dauphin, le projet de loi d'orientation des mobilités prévoit aussi un assouplissement des 80 km/h sur les routes avec un amendement qui doit permettre au département qu'il souhaite de relever la vitesse maximale à 80. Un projet de loi jugé insuffisant pour les ONG qui réclament aussi une contribution climat sur les billets d'avion. Et enfin, autre proposition plus radicale, interdire les vols intérieurs pour lesquels le même trajet est réalisable en train en 5 heures.
7h34, Sébastien, quand les violences en prison sont le fait des surveillants.
C'est l'Observatoire international des prisons qui publie aujourd'hui un rapport sur cette question brûlante. L'OIP qui dénonce, je cite, « omerta, opacité, impunité » au sein de la pénitentiaire. Pas de statistiques officielles, mais ces 2 dernières années, l'ONG a pu faire remonter plus de 200 signalements, Sarah Guibaudot.
Pour l'OIP, ces violences viennent d'une petite minorité de surveillants, mais ils sont souvent connus et identifiés, sauf qu'il est difficile pour un détenu de porter plainte et pour un surveillant, briser la loi du silence, c'est risquer brimade et intimidation. C'est ce qui est arrivé à Éric Thineau quand il a dénoncé le passage à tabac d'un détenu, un de plus, par 2 chefs de la prison de Liancourt. Il témoigne sous X, mais dès le lendemain, il est identifié.
Quand je suis arrivé à mon étage, j'avais un origami qui était en forme de pendu sur mon bureau. Et après, des coups de téléphone du matin au soir, la nuit, c'était des menaces de mort répétées. Il avait neigé, le lendemain matin on avait des traces de pas partout dans le jardin. La gendarmerie m'a envoyé en fait une voiture qui nous gardait quasiment 24/24. Tous les syndicats se sont mis contre moi.
Éric Thineau est muté mais précédé d'une réputation de balance. Le harcèlement a duré longtemps, il en a fait un livre. Ces 2 chefs ont été condamnés à 4 mois de prison avec sursis et mutés là où ils voulaient aller. D'autres surveillants anonymes ont même raconté à l'OIP des incidents provoqués pour obtenir obtenir arrêt maladie et indemnité. Si tu veux partir en vacances sur le compte d'un détenu, il faut qu'il te menace de mort, s'est vu conseiller un agent. L'OIP rappelle par ailleurs que la justice a du mal à recruter des surveillants dévalorisés qui eux-mêmes peinent à trouver un sens à leur métier.
Sarah Guibaudot du service police-justice de France Inter. Laurent Wauquiez a donc jeté l'éponge. Il a quitté hier la présidence des Républicains en direct sur TF1. Une démission qui a immédiatement provoqué l'appétit des autres partis. Nous tendons la main à tous les cadres et électeurs LR patriotes. A tout de suite réagi Marine Le Pen sur Twitter. Même appel du pied dans la majorité avec le ministre Sébastien Lecornu qui appelle lui tous les élus de droite et du centre à rejoindre En Marche. Un autre ministre, Bruno Le Maire, lui est attendu de pied ferme à Belfort aujourd'hui. Le ministre de l'économie ira à la rencontre cet après-midi des salariés de General Electric et des élus locaux, inquiets de la volonté du groupe américain de supprimer plus d'un millier de postes en France. Le directeur général de GE a garanti hier que Belfort ne fermerait pas et resterait un site majeur du groupe. La finance solidaire se porte bien en France. Une épargne éthique qui permet d'investir par exemple dans les pays en voie de développement ou dans le logement pour les plus démunis. Plus 8% pour la finance solidaire l'an dernier, ce qui porte le secteur à 12 milliards d'euros. Exemple d'une entreprise qui bénéficie de cette épargne, l'entreprise Moulineau qui recycle les déchets de 1000 restaurants d'Île-de-France avec des salariés au départ très éloignés du monde du travail. Le reportage de Théophile Vareille.
Chaque année, l'entreprise Moulineau collecte 8000 tonnes de déchets alimentaires.
Alors là, vous avez les déchets d'hier soir, des pluches, quelques os de poulet.
Les déchets organiques de ce restaurant seront transformés en compost qui viendra lui-même alimenter les maraîchers d'Île-de-France. Ancien restaurateur Stéphane Martinez décide en 2013 de vendre ses trois bistrots parisiens et lève 2 millions d'euros grâce à la finance solidaire.
Les financements solidaires m'ont permis d'avoir mes premiers camions pour pouvoir collecter mes premiers clients et surtout mes premiers chauffeurs et commerciaux derrière.
Avec 65 employés aujourd'hui, l'entreprise peut continuer à grandir. Stéphane Martinez espère lever 4 à 8 millions d'euros dans les prochains mois.
Là, on va essayer de refaire un tour de financement solidaire, toujours. Oui.
Le financement d'entreprises solidaires a bondi de 16% l'an dernier pour atteindre 650 millions d'euros investis et ainsi accompagner la croissance du secteur, affirme le directeur de FinanSol, Patrick Sapi.
On assiste à un vrai boom de la création des entreprises solidaires. Et ces projets-là, nécessairement, ont besoin de financement, d'une part pour se créer, mais d'autre part aussi pour se développer et augmenter leur impact social.
En 2018, la finance solidaire a permis de soutenir 48 000 emplois.
À noter ce nouveau baromètre sur l'emploi publié aujourd'hui par nos confrères du Parisien. Selon Adecco, qui base ses calculs sur un nouvel algorithme, les recrutements devraient atteindre cette année 3,5 millions d'équivalents temps plein en France, dont 39% en CDI jusqu'ici. Pôle emploi évoquait le chiffre de 2,5 millions.
7h38, Sébastien. Direction Israël. Israël qui s'apprête à vendre aux enchères du matériel humanitaire normalement destiné aux Palestiniens.
Ouais, c'est un motif de crispation supplémentaire entre Bruxelles et l'État hébreu. L'administration militaire qui gère l'occupation des territoires palestiniens en Cisjordanie compte vendre en effet aux enchères aujourd'hui et demain des salles de classe, du matériel financé par les pays de l'Union européenne. Ces bâtiments en préfabriqué ont été saisis l'an passé. Ils sont considérés comme illégaux par les Israéliens. Pour l'Europe, c'est un soutien humanitaire aux Palestiniens qui va donc maintenant rapporter de l'argent à l'administration militaire israélienne. Étienne Monin.
Ce que veut vendre l'administration militaire, c'est entre autres deux bâtiments préfabriqués qui ont été financés par l'Union européenne pour servir de salle de classe à des enfants palestiniens. Cette structure a été saisie en octobre dernier. Le montant total des biens vendus est estimé à 15 000 euros. C'est le symbole du déséquilibre dans le rapport de force en Palestine entre l'Europe et Israël. En deux mots, l'armée israélienne administre les deux tiers de la Palestine. C'est depuis des années le terrain d'un bras de fer humanitaire et diplomatique avec l'Europe. L'armée détruit ou saisit les structures financées par les pays membres. La facture depuis 10 ans est de presque 1,5 million d'euros. C'est devenu un motif de colère et de frustration pour un certain nombre de pays. La vente aux enchères a été annoncée dans un grand journal israélien. Ça n'est pas la première du genre. mais elle est considérée comme un cran supplémentaire dans l'obstruction israélienne au soutien humanitaire des Palestiniens, comme une violation du droit à l'éducation et maintenant comme une monétisation de l'aide humanitaire. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Et on termine, Sébastien, avec une adaptation inédite du Livre de la Jungle.
Le monument de Rudyard Kipling, ça se passe aux Nuits de Fourvière à Lyon, un déferlement de couleurs pour raconter l'histoire mythique de Mowgli, inspiré donc du livre de Kipling et adapté par Bob Wilson.
Bob Wilson a auditionné 2000 acteurs pour composer sa distribution. Il a trouvé des pépites parmi les jeunes pousses de la scène française pour incarner ces animaux de la jungle. Il a confié le rôle de Mowgli à Yung Ming Hae, tout juste sorti du conservatoire. Sa silhouette frêle ondule sur la scène, légère comme une bulle traversant l'espace avec agilité. Le jeune comédien et Bob Wilson se sont entendus comme larrons en foire.
Il est imposant, il est impressionnant, il est très classe, je trouve. Il utilise assez peu de mots et avec moi, c'était très simple parce qu'on avait les mêmes références. Donc ça s'est limité à Isabelle Huppert, Marlène Dietrich et Lady Gaga. C'était les trois indications que j'avais et c'était parfait. Il disait, no, it's more Lady Gaga, you know. Okay, play with your eyes, it's more like Marlène Dietrich. Et j'étais, ah d'accord, je vois.
Bob Wilson livre une version de l'œuvre de Kipling qui lui ressemble, avec ses couleurs saturées, si caractéristiques, ses éléments stylisés de décor qui apparaissent furtivement et cette maîtrise de l'espace inégalé. La musique a été confiée au duo folk surréaliste Coco Rosie. Leur partition est un voyage musical composé de tubes dont The Law of the Jungle qui reste bien ancré dans les têtes.
Voilà, Livre de la Jungle, Jungle Book, adapté par Bob Wilson ce soir encore à 21h30 aux Nuits de Fourvière à Lyon et à partir d'octobre à Paris. C'est un spectacle, décidément, France Inter.
Merci Sébastien Legénie.